D'Israël, la sirène du souvenir qui fige tout le pays. Ça, il y a eu une première sirène hier soir. Tout de suite, la seconde sirène à la mémoire de toutes les victimes des guerres d'Israël. D'entendre la sirène du souvenir, la sirène de Yom HaZikaron qui résonne en Israël, dans tout le pays, à la mémoire de toutes les victimes des guerres d'Israël et du terrorisme. Il est 10h passées d'une minute. Tout de suite, on retrouve le journal d'Eva Soto. Eva, bonjour.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Eva Soto, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous.
Et tout de suite, eh bien, pardon, avec cette sirène, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. À la une de l'actualité, les commémorations de Yom HaZikaron, la journée en Israël, d'hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme.
Elle a débuté dès hier soir et ce matin au Mont Herzl. Les cérémonies ont également débuté avec le discours du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à propos de la guerre contre le Hamas. C'est une guerre que nous n'avons pas choisie, mais qui façonnera nos vies pour des décennies à venir, a-t-il dit. Une cérémonie cette année, bien sûr, sous le spectre de la guerre encore en cours et des massacres antisémites commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plus de 1200 morts ce jour-là. Encore 132 otages dans la bande de Gaza. 711 militaires tués. 6236 Israéliens ont perdu un proche depuis ce funeste 7 octobre. Le colonel Meir Dahan, ce matin, au micro d'Ilana Ferradian.
Aujourd'hui, c'est le seul jour où tout le peuple d'Israël, en Israël et dans le monde entier, se rappelle de 25 040 morts dans les différentes guerres d'Israël. Et alors que pour les familles, chaque jour, c'est une journée de deuil. Pour nous, c'est une journée de commémoration pour commémorer nos soldats, nos amis, nos commandants qui ont tombé le long de la route de la création de l'État d'Israël.
Le colonel Meir Dahan au micro d'Ilana Ferradian.
Et malgré la guerre contre le Hamas depuis plus de 7 mois, le groupe terroriste reste une menace.
Et oui, avec encore ce matin des alertes à la roquette qui ont retenti dans plusieurs localités israéliennes de la frontière sud. Dans la soirée aussi à Kisoufi, mais plus tôt hier dans la journée, même à Sderot. Il n'y a pas eu de blessés et Dôme de Fer a intercepté la plupart des missiles ce week-end. C'est une maison d'Ashkelon qui a été frappée. L'attaque a fait 3 blessés, aucun dans un état grave. Et dans le nord, face au Hezbollah, pour la première fois depuis des mois, les sirènes d'alerte ont aussi retenti hier à Naharia.
Et selon le New York Times, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, se cacherait à Khan Younes.
Et sur le terrain, les médias palestiniens ont rapporté des frappes nocturnes de Tzal dans les quartiers est de Rafiar. Selon eux, Tzal aurait utilisé des drones pour cibler les véhicules de la police du Hamas dans la ville. Des raids ont également été signalés ces dernières heures dans le quartier de Shejaïa, dans le nord du territoire.
L'armée israélienne a aussi annoncé l'élimination du terroriste qui retenait Noam Marciano en otage à Gaza.
Naïm Goul faisait partie des personnes chargées de la surveiller avant sa mort. Le corps de cette jeune israélienne avait été retrouvé retrouvé par Tzal à l'hôpital Shifa en novembre dernier. Le terroriste était aussi responsable de nombreux tirs de roquettes. La frappe aérienne de Tzal qui l'a tué a eu lieu vendredi à Gaza.
Washington voit avec défiance l'opération de Tzal lancée à Rafah. Une offensive majeure, les États-Unis sont contre.
C'est ce qu'a dit Anthony Blinken hier au téléphone au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le chef de la diplomatie US, qui a par ailleurs affirmé qu'Israël n'avait encore fourni aucun plan sur l'après-Gaza pour éviter au Hamas de reprendre le pouvoir. Il a aussi déclaré que l'objectif américain en faveur de la défense d'Israël et celui de la défaite du Hamas étaient communs à Jérusalem et à Washington.
En France, Valérie Ayer, tête de liste Renaissance aux européennes, piégée ce week-end à Paris.
Des militants d'extrême droite affublés de t-shirts néo-nazis ou prônant la suprématie blanche l'ont sollicité pour un selfie. Elle a accepté sans voir ce qu'il portait. Valérie Ayer affirme avoir été piégée. Pierre-Alexandre Anglade, le directeur de campagne de Valérie Ayer, ce matin, au micro de Christophe Barbier sur Radio J.
Au fond, ce sont les manœuvres indignes de l'extrême droite, des néo-nazis, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui prospèrent dans notre pays. On a vu des manifestations il y a 48 heures en France qu'on ne pensait plus voir dans notre pays.
Cette manifestation était interdite par la préfecture, elle a été rétablie par la justice, vous le déplorez ?
Oui, je le déplore. Je le déplore parce que les défilés d'extrême droite n'ont rien à faire dans les rues de France.
C'était donc Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Ayer, ce matin sur Radio J, au micro de Christophe Barbier. Tous vos Barbiers du matin de 7h45 sont à retrouver sur notre compte YouTube et à podcaster sur radioj.fr.
Et puis une manifestation contre la haine à l'école, hier après-midi à Paris, place de la République.
Plusieurs centaines de personnes y ont participé, aussi des associations et organisations qui se sont jointes à l'appel de la DDF, la Diaspora Defense Force, de Franck Tapiro. La haine en général et celle contre les juifs se sont déployées, notamment depuis le 7 octobre avec des mobilisations qui se présentent comme pro-palestiniennes, mais dont les juifs deviennent des cibles.
Merci Eva Soto, on vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres.
Le 10-11 de Liszt Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'Art et de Culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'Art et de Culture est sur culture-juive.fr. Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Liszt Gutmann.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Liszt Gutmann.
Radio J.
Et ce matin, dans ce 10-11 consacré spécialement à Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour les soldats tombés dans les guerres d'Israël et à cause du terrorisme, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Déborah Journeau. Déborah Journeau, bonjour.
Bonjour Lise.
Alors, Déborah Journeau, vous vous occupez d'une association dont je vous laisse, une association d'avocats, dont je vous laisse nous rappeler les grandes lignes. Rapidement.
Oui. Donc le nom de cette association, c'est Action Avocat.
Oui.
Elle existe, elle a été créée post 7 octobre. Elle a vocation à agir évidemment pour la libération des otages. C'est l'objet premier qui a mené à la création de cette association. Mais maintenant, également dans la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et le terrorisme.
Donc, vous avez mené beaucoup d'actions, vous êtes parti plusieurs fois en Israël, vous avez rencontré des personnalités compétentes, vous nous en avez parlé toutes les fois où vous êtes venu à ce même micro. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose en France, vous êtes un peu plus axé sur la France parce que c'est de cause à effet, hein, on est d'accord. Il y a eu le 7 octobre et en France aujourd'hui, il suffit d'écouter le journal d'Eva Soto, il y a une remontée de l'antisémitisme partout. Vous étiez à la manifestation pour l'école hier, place de la République, et il y a une immense absence, c'est celle des otages dans les médias français. Oui. Alors, que se passe-t-il? Comment on peut l'analyser? Vous, dont c'est vraiment le point d'achoppement pour lutter, justement, pour cela.
Oui. Alors, nous, au sein de notre association, on a une commission libération des otages. Et la semaine dernière, on a fait un point et on s'est aperçu que, malheureusement, les otages ont totalement disparu des médias français. Hors médias communautaires, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle... Pour les 7 mois, le triste anniversaire des 7 mois, donc le 7 mai dernier, nous avons organisé sur les marches du palais un happening d'avocats pour appeler toujours à la libération des otages, évidemment, mais aussi pour interpeller les médias français, parce que les médias français ont rendu nos otages totalement invisibles. Alors, pour quelle raison? Je pense qu'il y a de la lassitude, on est passé à autre chose. Mais il ne faut pas omettre que parmi ces 133 otages, il y a également 3 otages qui sont français et qu'on n'a pas le droit d'oublier, nous, en tant que citoyens français, quelles que soient nos convictions religieuses, notre attachement ou notre détachement complet à l'État d'Israël. Donc on a voulu interpeller. Parce que le devoir des journalistes, c'est de ne pas oublier ces 3 otages que sont Ohad, Ofer et j'ai oublié son troisième prénom, oui. Orion, pardon.
Oui.
Donc évidemment, voyez, on en parle tellement peu que on en oublie même leur prénom. Et ça, c'est pas acceptable. Donc on a voulu marquer le coup pour ces 7 mois, parce que malheureusement, même au sein des associations, il n'y a pas eu d'événement organisé pour le triste anniversaire des 7 mois. Alors, oui. J'y vois plusieurs raisons. C'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que mettre trop en avant les otages, ça dessert
ça
leur libération.
Ça peut les desservir, oui.
Je me souviens d'une discussion qu'on a pu avoir avec la présidente de l'UNICEF, Madame Azan, qui nous a dit, voilà, il y a aussi des négociations dans l'ombre et trop parler des otages, trop mettre en avant, en l'occurrence, les 2 enfants qui sont toujours otages. Bon, bah voilà, ça dessert la cause parce que vous les mettez tellement en avant que ça devient une monnaie d'échange très importante et donc le Hamas n'a pas d'intérêt à les relâcher. Alors on l'a entendu et on s'est dit, peut-être qu'ils ont raison. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, les otages sont devenus invisibles et c'est le sujet de personne, finalement. Donc voilà, on a voulu vraiment marquer le coup pour ces 7 mois en se réunissant sur les marches du palais parce que finalement les otages ils n'ont pas de voix et nous notre force en tant qu'avocat et avec notre robe c'est de porter la voix des otages et appeler à la libération des otages.
Et c'est une façon de pallier à ce manque de communication?
Oui, c'est une façon de pallier à ce manque de communication parce que c'est vrai que Paris et la France, de manière générale, étaient placardés d'images des otages.
Il y avait des affichages partout.
Il y avait
des affichages. Là, il y en a beaucoup moins.
Alors, il y en a beaucoup moins. Moi, j'y vois plusieurs raisons. La première, c'est que on collait beaucoup sur les boutiques vacantes. Et je pense que les bailleurs en ont un peu assez qu'on placarde d'images leurs boutiques qui sont moins séduisantes, finalement. C'est vrai.
Sûr, oui.
Et puis, je pense qu'il y a une dimension politique. Les JO approchent.
Mais
et
oui.
Voir une ville placardée avec des images d'otages, c'est des images difficiles. On n'a pas envie que les touristes voient ça. On a envie de rentrer dans les JO. Et les JO, alors c'est les travaux, évidemment, mais les JO, c'est la joie, c'est la compétition. Et je pense qu'on n'a pas envie de trop ramener le sujet israélien des otages, parce qu'il y a aussi toute cette problématique de la participation aux JO qui est décriée par certains partis politiques en France d'Israël.
Donc, bien sûr.
Je pense sincèrement qu'il y a une volonté du gouvernement d'effacer durant les JO qui approchent à grands pas les visages des otages également. Alors, c'est à nous de rebondir.
En même temps, ils en parlent. Il m'a semblé que Gabriel Attal, le Premier ministre, en avait parlé.
Vous savez, c'est la raison. J'étais au dîner du CRIF lundi dernier
oui.
Et je n'ai pas interpellé le gouvernement sur les marches du palais parce que Gabriel Attal, notre Premier ministre, a eu un discours exemplaire. Il a eu un discours exemplaire, il a utilisé les bons mots, donc on n'avait rien à reprocher. Moi, j'ai été très marquée lors de son discours de la justification qu'il donnait dans l'intervention d'Israël à Gaza en disant quand il a rencontré une famille de victimes, il nous a raconté cette histoire de cette jeune fille qui était à Nova, qui était handicapée, qui était dans sa chaise roulante et qui
oui.
a choisi d'aller quand même à Nova pour danser sur sa chaise.
Avec ses amis.
Avec ses amis, qui évidemment n'a pas pu courir
oui.
pour se sauver. Et ils n'ont récupéré que 2 dents
oui.
pour enterrer leur fille. Et j'ai trouvé que utiliser cet exemple dans son discours, c'était très fort pour marquer et justifier l'intervention d'Israël à Gaza.
Bien sûr, bien sûr. Alors, les effets de la guerre en Israël pour les citoyens français, c'est entre autres ce qui se passe dans les écoles et les universités. Vous, en tant qu'avocat, comment pouvez-vous réagir ?
Alors, nous, on est extrêmement actifs. Je dirais que la commission éducation, c'est vraiment la commission qui est la plus active au sein de Action Avocat. En fait, on ne laisse rien passer. Et tout ce qu'on nous envoie,
oui, c'est bien.
Tout ce qu'on nous envoie, on agit.
Oui.
Une conférence qui est organisée, des rassemblements, on essaie de faire interdire lorsque manifestement il va y avoir un trouble à l'ordre public. Donc on écrit au directeur d'établissement, au doyen d'université. On a obtenu l'annulation de deux conférences, une à Lille et une à Montpellier, avec l'aide de nos confrères locaux d'ailleurs. Donc c'est important de le souligner parce qu'on est donc une association essentiellement à Paris, mais on a des confrères en province qui nous aident également. Et ce qu'on fait, c'est, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, les directeurs, les doyens, les professeurs, ils ont besoin de notre soutien. Donc nous, on n'écrit pas pour les épingler. On écrit pour leur dire, voilà la loi, quels sont vos devoirs ? Vos devoirs, c'est quoi ? C'est de maintenir un cadre c'est sécurisant pour les étudiants, que les étudiants puissent venir étudier, mais de maintenir la laïcité, la neutralité au sein de ces établissements. C'est les valeurs républicaines. L'école, c'est la République.
Bien sûr.
Et donc, importer un conflit et ne pas débattre, mais finalement menacer les étudiants, parce que la réalité, c'est ça. Je veux dire, moi, si je reprends les propos de Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, il l'a encore redit hier lors du rassemblement Place de la République, les étudiants juifs sont ostracisés. Ostracisés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bah, je m'assois, personne s'assoit à côté de moi, ou on se lève parce qu'on veut pas être assis à côté d'un juif. Il y a eu, mais si vous voulez...
Il y en a qui ont perdu beaucoup d'amis aussi.
On a perdu beaucoup d'amis.
Voilà.
Et quand je dis on, parce que je m'inclus
les étudiants
aussi. Les étudiants
aussi,
ont perdu beaucoup d'amis. Mais ça, on va le retrouver à l'université, dans les grandes écoles, mais on le retrouve au lycée
aussi,
au collège, et je vais même vous dire mieux, au primaire.
Oui.
Et c'est ce qui fait que notre engagement est d'autant plus fort, parce que si... En primaire, on arrive à avoir des élèves qui sont menacés au sein de leur école ou ostracisés également. Il y a eu ce témoignage de cette petite fille qui n'avait personne qui voulait se mettre avec elle dans
Mais
sa chambre en classe verte
oui.
parce qu'elle était juive, ça a été l'argument. J'ai aussi un exemple proche d'une petite fille pour laquelle on a fait le geste de décapitation parce qu'elle avait fait un coloriage d'un drapeau d'Israël.
Oui.
C'est des classes de primaire. On parle d'enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et ça, c'est forcément ce que les enfants entendent à la maison. Et malheureusement, ce qui se passe en Israël le 7 octobre, les conséquences du 7 octobre, bah, c'est l'augmentation de l'antisémitisme. Derrière l'antisionisme, on se cache derrière l'antisionisme. Et il faut le dire haut et fort, et je pense que la loi doit évoluer sur ça. Être sioniste, c'est un droit. Être
Bravo.
Sioniste,
oui.
c'est un droit.
C'est un droit. Alors justement...
Même quand on a 7
donc,
ans. Même
bien
quand
sûr,
on a 7 ans.
Évidemment, évidemment. Votre réponse à la situation dans les écoles, c'est une tribune. Et cette tribune, j'aimerais que vous nous en parliez pour terminer.
Oui. Alors donc, on a publié une tribune dans le journal La Tribune dimanche dernier, qui a réuni plus de 6000 signatures.
Oui.
C'est important de le souligner parce que c'est presque un record en si peu de temps. En 4 jours, on a réuni plus de 6000 signatures des citoyens de tous bords. C'est une tribune apolitique et l'objectif c'était d'interpeller sur stop à la haine à l'école, stop à la violence à l'école, oui au débat, non à la violence. Nous on veut réintroduire cette idée qu'on peut débattre de tout à l'école. On doit pouvoir débattre de tout à l'école, d'autant plus dans une école comme Sciences Po où justement on apprend à débattre. Si jamais on ne peut plus débattre, c'est plus l'école de la République. Donc, on a fait cette tribune pour interpeller également les directeurs d'établissement parce que
je m'excuse, vous avez eu des réactions de leur part ?
Non, pour le moment, on n'a pas de réaction, mais vous savez, la réaction, elle peut être silencieuse et dans les faits, agir. Vous avez vu que Sciences Po a fermé certains de ses établissements.
Oui.
Ce qui prouve qu'on, on ne maîtrise plus la sécurité au sein de l'établissement.
Oui.
Donc ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on voulait dire, c'est également, on ne doit pas céder à la pression des étudiants. Et la pression, c'est lever des sanctions disciplinaires. Évidemment, c'est pas acceptable. Donc,
bien
on
sûr.
Voulait vraiment agir sur ce point-là. Et remise en cause des partenariats avec les écoles, ou même les entreprises israéliennes, également, ce n'est pas acceptable. On ne doit pas être tenu par le bout du nez par une petite mêlée d'étudiants qui sont mélangés à d'autres personnes qui ne sont pas étudiants à Sciences Po, en l'occurrence.
Mais bien sûr.
Et la réalité, c'est ça. Et moi, j'aimerais aussi interpeller les médias de manière générale, parce que c'est parce qu'on donne une audience aussi importante que les mouvements prennent cette importance.
Bien sûr. Bien
d'accord,
sûr.
Qu'on vienne sur place pour interviewer, je suis d'accord, mais les images sont importantes. Les images sont importantes et le travail du journaliste, c'est aussi de redescendre le débat,
oui,
et pas l'envenimer.
Vrai. Oui, tout à fait. Un dernier mot, 30 secondes. L'Eurovision, on en a beaucoup parlé. Ça a été très compliqué pour Eden, qui a été extraordinaire pour Israël. Et en fait, le public a voté pour Israël. Incroyable.
Incroyable. Bah, on a eu un vote du public qui montre un soutien, il faut le dire, hein, à la cause de la population israélienne et juive de manière générale.
Oui.
Je vais vous dire, moi, j'ai créé au sein de l'école de mes enfants un club d'amitié France-Israël.
Ah, carrément.
Bon, ouais.
Ça m'étonne pas.
Mais vous savez pourquoi
elle
je l'ai
créé? Elle est formidable, Déborah Journeau.
Je l'ai créé parce que j'ai des amis non-juifs qui soutiennent Israël.
Oui.
Et samedi soir, ils m'ont dit, c'est la première fois que je vote à l'Eurovision et je vais voter parce que voter pour Israël, c'est aussi voter pour la démocratie et contre l'antisémitisme.
Voilà, le résultat était là. Elle est arrivée cinquième. Déborah Journeau, quand vous le souhaitez, sur Radio J.
Merci.
La
Lise.
Porte est plus que grande ouverte. Et puis, on vous retrouve très, très vite sur cette antenne.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Radio J.
Votre programme revient dans moins d'une minute.
Radio J.
Radio J.
14h, 15h.
14h, 15h.
Le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.
Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence Juive vous invite au Salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand Salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Radio J, cette semaine à l'Agence Juive. Shmuel Haloul, bonjour.
Bonjour Lise, comment allez-vous?
Alors ça va, comme Ayom Azikaron, on va dire. Et je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour que vous nous parliez de cette journée si difficile, si spéciale, particulièrement en ce moment, puisque c'est la journée à la mémoire des victimes des guerres d'Israël, mais également du terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Effectivement, hier soir a commencé Yom HaZikaron, qui est la date de commémoration de tous les soldats tombés, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, les victimes du terrorisme. On parle de victimes depuis la création de l'État d'Israël. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, avec les événements du 7 octobre, ces souvenirs de soldats tombés que l'on avait d'une époque lointaine est aujourd'hui très proche, puisque ça fait quelques mois que tout le pays a été atteint avec des pertes d'amis soldats et de frères et de sœurs qui étaient dans un festival ou qui étaient tout simplement chez eux. Il y a Yom HaZikaron en Israël, c'est quelque chose de particulier puisque, à ma connaissance, et je peux en témoigner, il n'y a pas une personne en Israël qui n'est pas affectée. Si c'est pas au premier degré, alors c'est au deuxième degré. Mais on a tous les habitants d'Israël, ont un voisin, un ami, un cousin, un ami de classe, des gens qui étaient armés avec eux, qui ont perdu quelqu'un. On a tous perdu, malheureusement, quelqu'un.
Bien sûr.
Pour la création du pays et pour son existence aujourd'hui, soit pour laquelle on est en train de se battre. Et donc il y a des cérémonies vraiment, alors il y a des cérémonies officielles à Herzl qui est retransmise à la télé, mais il y a au-delà de ça des cérémonies dans toutes les villes, mais pas juste, il y a aussi dans des quartiers pour rendre hommage. Par exemple, moi je viens de Ardona à Jérusalem et depuis le 7 octobre seulement, on a perdu 6 jeunes personnes, 6 jeunes soldats qui sont tombés. Et donc, c'est devenu de plus en plus à une petite échelle dans des quartiers, dans des petits villages. Et on essaye vraiment de sensibiliser, de faire que tout le monde puisse se joindre à cette cérémonie, que tout le monde puisse partager.
Bien sûr.
Yom HaZikaron, c'est pas seulement un jour de tristesse, et ça c'est important. C'est vrai que c'est un jour important pour se souvenir de ce qu'on a perdu, mais c'est aussi un jour où on se charge d'espoir, et là c'est une importance de dire ces gens ne sont pas tombés en vain. Et nous, en tant que personnes qui sommes, en tant que survivants, que vivants, nous leur devons de vivre et de continuer leur action. Alors, et en Israël, alors il y a des cérémonies aujourd'hui aussi. On a fait une cérémonie dans nos bureaux il y a quelques instants en direct avec Israël. Mais aussi en France, on voit qu'il y a énormément cette idée spéciale.
Attendez, on vous entend mal. Repositionnez-vous. Et on également en France, oui.
En France, il y a énormément de communautés aussi qui ont commémoré, avec plusieurs cérémonies à travers la
communauté. Je suis désolée, on vous entend très très mal. On va essayer de vous rappeler sur un fixe, mais là, on ne peut pas continuer comme ça, ça coupe. Merci Shmuel Alloul.
אשר עברו את כל האש והשחיקות בשם הימים אשר פשטו על הנמלים ועיניהם כבדות ממלח וגלים אני מרתיח לך ילדה שלי קטנה שזאת תהיה המלחמה האחרונה
אני מבטיח לך לך je te promets Yalda Sheliktana, ma petite fille, chez Otiye Milchama Arona, que ce sera la dernière guerre, interprétée par Yehoram Gaon.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Liz Goodman.
Radio J.
Il est 10h30 et tout de suite on retrouve le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour, et à la une de l'actualité en Israël, les commémorations de Yom HaZikaron, la journée d'hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme. Les cérémonies ont débuté ce matin au Mont Herzl avec le discours du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. C'est une guerre que nous n'avons pas choisie et qui façonnera nos vies pour des décennies à venir, a-t-il dit à propos de la guerre contre le Hamas à Gaza. Depuis le 7 octobre, il y a 711 soldats de Tsahal qui ont été tués. Le 7 octobre, c'est 1200 morts juste pour cette journée et encore 132 otages dans la bande de Gaza. Actuellement, 6236 Israéliens ont perdu un proche depuis donc un peu plus de 7 mois. Malgré la guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre, le groupe terroriste reste une menace. Ce matin encore, des alertes à la roquette ont retenti dans plusieurs localités de la frontière sud. Dans la soirée aussi à Kisoufi, mais plus tôt dans la journée hier à Sderot, il n'y a pas eu de blessés. Dôme de fer a intercepté la plupart des missiles. Selon le New York Times, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, se cacherait à Khan Younes. Et sur le terrain, les médias palestiniens ont rapporté des frappes nocturnes de Tsahal dans les quartiers est de Rafah, l'armée israélienne qui a aussi annoncé ce matin l'élimination du terroriste qui retenait Noah Marciano en otage à Gaza. Terroriste également responsable de nombreux tirs de roquettes. Washington voit toujours avec défiance l'opération de Tsahal lancée contre le Hamas à Rafah. Une offensive majeure, les États-Unis sont contre. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken, le chef de la diplomatie US hier au téléphone au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. En France, Valérie Hayet, tête de liste Renaissance aux Européennes, piégée ce week-end à Paris, des militants d'extrême droite affublés de t-shirts néo-nazis ou prônant la suprématie blanche l'ont sollicité pour un selfie. Elle a accepté sans voir ce qu'il portait. Valérie Hayet affirme avoir été piégée.
Merci Eva Soto. On vous retrouve à 11h sur RadioJ.fr et DAB+ pour un nouveau journal.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël ? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h.
Inscription obligatoire sur agencejuive.org.
L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Liz Goodman.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Liz Goodman.
Radio J.
Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir et d'être en ligne avec Hélène Schumann, spécialiste du cinéma israélien et puis surtout présidente du Festival du cinéma israélien. Hélène Schumann, bonjour et Boker Tov.
Boker Tov, Lise, bonjour.
Alors, ce matin, vous avez choisi d'évoquer pour nous, dans le cadre de Yom HaZikaron, Tsahal, une armée comme aucune autre. Alors, une armée comme aucune autre, entre autres, représentée dans le cinéma israélien, et c'est important et bien qu'on en parle. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit récapitulatif, peut-être historique, autour de la création d'Israël et même bien avant ?
Bien sûr, Lise. Alors, bien avant, comme vous dites, la création d'Israël, le foyer juif de Palestine avait compris qu'il lui fallait une armée forte pour se défendre. Alors, il y a eu le Palmar, qui a été unifié par David Ben-Gourion, qui deviendra, dès la proclamation de l'État juif en 1948, cette légendaire armée que l'on connaît sous le nom de Tsahal. Donc, elle est longtemps considérée comme une des plus fortes au monde, et c'est un modèle dans beaucoup de pays, avec des principes moraux qui sont liés à justement la pureté des armes et de l'esprit, car ce sont des femmes aussi qui combattent et des jeunes hommes qui ont quand même une allure assez décontractée. Ce sont des patriotiques. Et ça reste comme ça jusqu'à, on va dire, après la guerre des six jours, où elle a mis évidemment, comme on sait, en très peu de temps à terre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, et qui va rentrer victorieuse dans Jérusalem libérée. Alors, on va dire, Lise, on va poser tout de suite, évidemment que c'est un idéal, mais attention au lendemain qui déchante, car après la guerre de Kippour, évidemment, ça va être complètement un cauchemar. Voilà. Alors, on va quand même commencer à évoquer le cinéma.
Oui, bien sûr.
Qui est une, en fait, tribune démocratique. Hein, on le sait. On peut tout dire, hein. On leur a, sur notre antenne, beaucoup dit et redit qu'on peut tout dire, tout montrer. Et alors, évidemment, le cinéma a montré au peigne fin toutes les phases.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le cinéma est à l'image du pays et de cette armée, qui est un peu l'armée du peuple, comme vous venez de l'expliquer, et qu'il y a une liberté importante dans le cinéma israélien?
Oui, absolument, Lise. Il y a une liberté avec, vous savez, comme la météo, des changements.
Oui.
Brutaux, d'ailleurs.
Parce oui.
que c'est vrai que si on fait aussi, on reste toujours dans l'histoire, bien sûr, sur cette armée, on peut dire que jusqu'en 1977,
oui.
le cinéma israélien montre encore une armée forte avec des films, avec des soldats qui sont prêts à combattre et à mourir pour leur patrie. Alors, je vais donner, pas tous les films bien sûr, mais en tout cas des films mythiques, comme La colline 24 ne répond plus, de Thorold Dickinson en 1955. Il marchera dans les champs, de Yosef Milo. Là, on passe très longtemps après, en 67. Scouting Patrol de Misha Shagrir, en 67 aussi. Opération Thunderbolt de Menachem Golan,
oui.
en 1977. Alors, jusqu'en 77, donc on voit, alors évidemment dans notre émission on parle que des fictions, hein.
Oui.
J'évoquerai peut-être vers la fin en actualisant
bien sûr.
Des documentaires, parce que les documentaires sont trop longs. On va dire que chaque documentaire en Israël, c'est bien sûr beaucoup sur l'armée, hein. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe, pour revenir à notre sujet, en 1977, il va y avoir un coup de tonnerre, parce que parachutiste de Yehuda Yud Neyman, qui va sonner un véritable coup de tonnerre pour le pays, parce que la première fois on voit dans le cinéma le malaise d'un soldat face à la discipline de l'armée et à son autorité. D'ailleurs, c'est un film dont le héros est l'acteur très connu Moni Moshonov, un des plus grands acteurs du cinéma israélien, qui va incarner ce rôle, et ça va lui donner aussi un boulevard à lui et à ce genre de cinéma, puisque la voie est ouverte à plusieurs films.
Et alors, films avant que vous nous donniez ces films dont la voix est ouverte, moi j'ai juste une suggestion. Ces films que vous venez d'évoquer, de 55 à environ 77, on les connaît très peu en France. On ne pourrait pas profiter du festival pour les repasser? Ce serait de l'ordre du possible. C'est juste une suggestion.
Bah, en fait,
ce serait bien.
C'est une très bonne suggestion. Oui.
Oui. Non, j'avais juste envie de... Voilà.
Non, alors. Mais alors, Lise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a passés, bien sûr. Hein.
Oui.
On les a passés au fil de ces 24e années avant. Il faut savoir que c'est pas toujours facile d'avoir les droits de ces
bien
films-là,
sûr. Oui.
Qui n'existent pas toujours dans des versions faciles à projeter au cinéma. Et du coup, c'est compliqué. Je sais qu'on essaye, par exemple, ça fait des années que j'essaye, je fais une petite parenthèse, de programmer une comédie musicale que j'adore qui s'appelle Casablanca.
Mais oui, bien sûr.
Et justement, de Menachem Golan.
Oui.
Et en fait, c'est compliqué, la famille a les droits. Il y a
bien sûr. Avec Yehoram Gaon qu'on a entendu sur l'antenne de Radio J il y a quelques instants. Alors. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais on va reprendre peut-être avec les films à succès qui vont après 77. Donc, si vous nous parliez de Ricochet d'Eli Cohen en 86.
Voilà. Alors après, il y a toute une série de films d'Eli Cohen qui est un grand cinéaste, qui est,
oui.
qui est toujours vivant. Je crois qu'il y a un film de lui d'ailleurs à Docaviv, j'en parlerai demain, qui est le grand festival de documentaires qui se passe à Tel Aviv, donc en 86. Après, il y a un film d'un grand cinéaste que j'aime beaucoup, One of Us, Uri Barabash,
oui.
en 89. Ça va être entre parenthèses, je refais une parenthèse, ça va être celui qui pour la première fois va montrer au cinéma dans Beyond the Wall,
oui.
au-delà du mur, un soldat et dans une prison, il va se lier d'amitié avec un arabe. Et pour la première fois, il va être joué par un arabe. Et parce que jusqu'à présent, jusqu'à très longtemps, les arabes, quand on les voit dans le cinéma israélien, sont joués par des séfarades. Excusez-moi, Lise, c'est pas
oui.
C'est évidemment pas très sympathique, mais
ouais. C'est mais maintenant, ça. Ça a changé, et heureusement. Alors.
Ouais, maintenant, ça a changé, heureusement. Alors après, on a un peu plus dans le temps, hein, parce que je
bien
te
sûr.
Donne évidemment les films à gros succès et qui ont été exportés comme Infiltration de Dover Khosachevili, qu'on connaît bien pour avoir fait Mariage tardif, hein,
mais oui.
qui a eu un énorme succès avec Lior Ashkenazi et la regrettée Ronit Elkabet. Donc, tous ces films-là, Rock the Casbah de Yariv Horovitz, un peu plus drôle, 2012, Beaufort de Joseph Sédar en 2007, tous ces films-là illustrent un cas extrême où des soldats sans état d'âme sont envoyés à une mort gratuite. Donc ça, il faut savoir que ça va être terrible pour l'armée, on va dire qu'elle en prend un coup, et qu'effectivement, la cerise sur le gâteau, si je peux dire, de tous ces films-là, c'est bien sûr le film d'Amos Ditaï, que personnellement, on critique Amos pour tous ces films, parfois plus ou moins réussis. Celui-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est Kippour. Parce que c'est un film autobiographique, Kippour, c'est l'histoire d'un soldat. D'ailleurs, je vais vous dire comment Amos Ditaï a repris son vrai nom. Alors, c'est pas lui qui joue, mais son vrai nom, qui est Weinraub, et pas du tout Kitaï, qui est le nom de sa mère. Et Weinraub, ce soldat, le jour de Kippour, va essayer de retrouver son escadrille. Il sait pas où elle est, une sirène retentit dans le pays. Il va essayer de rechercher son escadrille de parachutistes. Et en fait, c'est toute la recherche de cet homme vers son escadrille et comment ça va se passer, comment en fait la réalité de la guerre où tous ces soldats s'enfoncent dans la boue, il y a des sirènes, il y a des brancardiers qui passent. Pour moi, c'est une danse de mort. Et de fait, c'est ce film-là qu'il a fait, qui montre comment le soldat Weinraub a décidé d'arrêter ses études d'architecture et de faire du cinéma. Amos Ditaï n'était pas du tout cinéaste au départ, c'était pas une vocation. Il voulait être architecte comme son père.
Oui.
Et suite à la guerre de Kippour qu'il a faite, où il a perdu tout son escadron, tous les gens avec qui il était dans l'hélicoptère sont morts, sauf lui. Il s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire là, je vais montrer et je vais faire du cinéma. Alors, il n'a pas fait ce film tout de suite. Il a mis des années et des années, puisqu'il fait du cinéma depuis très longtemps.
Oui, il fallait que ça mature, en fait.
Et c'est surtout qu'il fasse son deuil.
Bah oui.
Parce que le soldat Weinraub ne pouvait pas, c'était extrêmement difficile pour lui. Donc c'est pour ça, à chaque fois je sais qu'il n'est pas aimé en France, je sais que c'est compliqué, mais son cinéma est compliqué. Mais en tous les cas, voilà, qui montre comment les soldats sont devenus.
Donc un film à revoir. Film à revoir, voilà. Bien entendu. Alors, parallèlement, se sont développées dans plusieurs fictions la relation à l'ennemi qui devient une présence humaine et presque un visage ami.
Oui,
expliquez-nous.
Oui. Alors en fait, je vais surtout parler en fait d'un film après Avantipopoulos qui a eu tous les prix et tout, mais c'est vrai que il y a une présence humaine qui se développe dès 1962. C'est avant, c'est dans le brouillard, on montre que les soldats israéliens, les patriotes et tout ça. Donc c'est Ilan Elrad qui va réaliser Sinaï, l'histoire d'une femme bédouine qui est blessée avec son enfant face à deux Israéliens. Et alors c'est drôle parce que bien des années plus tard, alors Lise, je saute parce que si vous voulez, encore une fois je me répète, mais je ne donne que des films qui ont été primés,
qui ont été distribués,
parce que sinon on passerait la nuit.
Hein, oui.
Et pourquoi pas, mais bon, c'est.
Et vous en seriez capable parce que vous avez une telle connaissance du cinéma israélien que c'est juste incroyable. Alors, en 62, Ilan Eldad réalise Sinaïa et en 86, est-ce que le thème est repris dans Avantipopoulos?
Avantipopoulos, c'est le grand film de Rafi Bokai qui malheureusement est décédé et c'est en 1986. C'est un film mais incroyable où en Égypte des soldats israéliens vont ramener en traversant le désert, c'est un peu un road movie dans le désert à pied, trois soldats égyptien et en fait il va se nouer une espèce de lien entre eux, mais quand je raconte ça, ça veut rien dire, il faut le voir d'abord parce que c'est très beau, hein, le désert c'est très beau à filmer et ces acteurs sont extraordinaires parce que il y en a un dont j'ai oublié le nom mais peu importe parce que voilà qui joue le rôle qui est palestinien, donc vous voyez déjà on va loin. Et qui va jouer donc le rôle de ce soldat égyptien et il est juste extraordinaire. Il reprend carrément un monologue de Shakespeare, hein, le marchand de Venise, Shylock. Donc il va carrément jouer au soldat cette parodie et c'est un film qui nous emmène très très loin psychologiquement, hein, très loin et vraiment ça par contre vous voyez je l'ai repassé.
Oui, bien sûr, oui, je me souviens.
Qu'il y a eu une version restaurée par la Cinémathèque de Jérusalem et donc j'étais ravie
Pouvoir faire connaître le film. Alors,
Après, il y a Burning Memory de Yossi Sommer en 85 et évidemment le fameux film Valse avec Bachir d'Harry Folman en 2008 qui a eu un grand prix à Cannes.
Mais oui.
Et qui est un film d'animation absolument incroyable. Et quand je dis incroyable, d'ailleurs, le cinéaste qui est devenu mondialement connu après, c'est quand vous avez un prix dans un festival international de cinéma, ça n'a l'air de rien, mais ça vous ouvre toutes les portes.
Bien sûr.
Donc, notre Harry Folman a eu toutes les portes ouvertes et a fait, vous savez, le journal d'Anne Frank après, qui était magnifique. Mais Valse avec Bachir...
Mais ça reste un film vraiment de référence. Alors, parle de l'armée. Hélène, le temps passe très vite. On parle de l'armée, on parle des soldats. soldats, mais la spécificité de Tsahal, c'est également les femmes dans l'armée. Elles font leur service militaire, y compris les armes à la main, pendant 2 ans, et les garçons pendant 3 ans. C'est important de le rappeler. Alors justement, les femmes dans les films, les femmes soldates, il y en a?
Alors, dans les films, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de films consacrés, enfin, de films connus consacrés à ces femmes soldats. Ça reste encore anecdotique, mais quand même, il y a eu quelques films comme You Are in the Army Girl, Vous êtes dans l'armée, les filles, de Nadav Levitan, en 85. Plus connu parce qu'il a été distribué, là, Une jeunesse comme aucune autre, de Dalia Aguer et Vidou Bilou en 2004. C'est ce film-là qui m'a fait prendre le titre qu'on a ce matin, Une armée comme aucune autre. Room 514,
mais oui.
Sharon Barziv, qui a été aussi distribué. Et il y a aussi un film que moi, j'ai beaucoup aimé, qui a été fait en 2012, qui est Zero Motivation, avec la comédienne Danaïs Guy, que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est drôle. Ça se passe dans l'armée, enfin, au sein de l'armée, au sein d'un nahal, là où les filles font leur armée aussi, dans un kibboutz, et c'est toutes les histoires avec les filles soldates, les histoires d'amour avec les soldats, etc. Et là, c'est très drôle parce que l'humour aussi s'en mêle parfois, même si on reste sérieux. Par exemple, vous avez Assi Dayan qui réalise un film drôle, une parodie sur l'armée avec trois comiques célèbres qui sont Poliakov, Lévy et Banaï. Alors ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est des acteurs très connus. Alors ça, c'est vraiment local, comme on dit maintenant. Vous savez, ça reste local, ça veut dire que c'est des films qui ne sont absolument pas distribués. Il y a aussi les chansons. Liz, je crois savoir que c'est un de vos films préférés, Avin Echter,
Aleraka. La comédie musicale. On écoutera un extrait dans 2-3 minutes. Halehaka, La Troupe, et qui est une merveilleuse comédie musicale dans laquelle beaucoup de chanteurs israéliens de l'époque ont été lancés, il faut le dire.
Voilà. Mais ils ont été lancés, Guidi Gov et compagnie, et surtout, c'est un film qui reste un film légendaire pour les Israéliens. Moi, je l'ai passé au festival une année, et il y avait beaucoup d'Israéliens dans la salle, mais j'étais hallucinée, tout le monde était debout en train de chanter.
En train de chanter, bah évidemment.
Donc c'est vraiment... Oui.
Ça fait partie de la culture israélienne d'aujourd'hui. Alors, comme le temps passe très vite, on va passer directement à un des films qui a marqué votre dernier festival, Le Déserteur.
Oui, je voudrais quand même dire, parce que c'est important, Liz, aussi, de dire que il y a l'homosexualité quand même, on va ouvrir une juste qui sont abordées. C'est important, hein, on n'en parle jamais.
Oui.
Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est quand même le pape militant de l'homosexualité, mais qui fait des films incroyables, dont Tu marcheras sur l'eau, Pardonnez-moi du peu, avec Lior Ashkenazi. Ashkenazi, c'est Ethan Fox.
Oui.
Et le film s'appelle Yossi et Jagger. Et donc voilà, je voulais simplement
D'accord. Alors,
avant d'aborder les films.
Non, là on n'a plus le temps, Hélène. On n'a vraiment plus le temps.
Voilà.
Donc Le Déserteur, une minute et on va s'arrêter là.
Oui, Le Déserteur qui est sorti et qui a beaucoup de succès, qui est encore une fois un film, moi je vais dire ça, une course effrénée contre le temps, vous l'avez vu, Lise, de Danny Rosenberg, qui est l'histoire d'un jeune soldat qui veut retrouver son ami à Tel Aviv, qui en a marre, il est soldat à Gaza, etc. Et c'est une course effrénée dans Tel Aviv, et ça donne aussi en fait des scènes comiques, puisque tout le monde pense qu'il est porté disparu, l'armée fait des communiqués, alors il va vite voir sa mère pour dire coucou, je suis là, je suis toujours vivant, mais moi je veux voir ma copine. Et en fait, par ce biais anecdotique, le grand thème de la peur de l'armée finalement qui abîme cette jeunesse, je parle du cinéma hein, toujours.
Oui, bien sûr.
Eh bien, on le voit là. Juste une seconde sur quand même, je reviens aux femmes parce que c'est actuel. Femme au combat, c'est un documentaire que j'ai passé cette année, qui a eu le grand prix du documentaire de Nechoustan, où on voit comment les femmes qui ont combattu ont des traumas, des traumatismes, mais c'est l'histoire de quatre femmes qui vont raconter leur traumatisme dans l'armée.
Eh bien, pour tout cela, pour tout ce que vous nous apportez, Hélène Schumann, présidente du Festival du cinéma israélien de Paris et même maintenant en France, puisqu'il y a des, il y a également des projections dans toute la France. On vous félicite, on vous remercie. Et puis, on va terminer avec un petit extrait de Haléhaka, la troupe. En fait, à la fin du film, c'est là qu'on découvre Shir la Shalom, la chanson pour la paix. Et en ce jour de Yom HaZikaron, c'était important. Hélène, très grosse bise et merci pour tout.
Merci Lélie.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.
Radio J. Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Le 10-11 de Lise Goodman vous a été proposé avec le concours du Centre d'Art et de Culture et du FSJU. Le Centre d'Art et de Culture, c'est aussi le Festival de Cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J à 11h sur radioj.fr et DAB+. Vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J, une édition spéciale en direct au plus près de la guerre en Israël et surtout aujourd'hui, une émission spéciale Yom HaZikaron. Vous écouterez les chroniques d'Alexis Lacroix, de Pascal Zonshine depuis Jérusalem, et du rabbin Michael Azoulay. Rejoignez-nous donc à partir de 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et l'application Radio J. Et tout de suite, on termine comme tous les matins. D'abord, je voulais remercier Serge Surpin, bien sûr, à la réalisation technique. Et on termine avec une version de la Hatikva interprétée lors de Yom HaZikaron par les troupes de Tsahal, Hatikva, l'espoir, c'est ce qu'on se souhaite aujourd'hui et comme tous les matins sur Radio J.
Ufate mizrach kadima.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J, réveillez l'informé qui est en vous.
Écoutez Radio J.